Bonjour à tous les auditeurs francophones et francophiles. Merci de syntoniser le 107,9 FM, votre radio communautaire francophone dans la grande région de Victoria. C'est Alexis Gagnon au micro avec vous jusqu'à 17h. Votre rendez-vous info quotidien, le débrief, commence à l'instant. Nous avons 4 degrés au centre-ville actuellement et le mercure descend à moins 2 en cours de soirée. Tout de suite, les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Au retour, dans 4 minutes, la météo détaillée et la suite des actualités. Bonne émission à tous. La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducum national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Publication d'une ordonnance en provenance de l'Office national de l'énergie. Le document souligne que toutes les sociétés réglementées devront publier en ligne l'information relative à leur programme de gestion des urgences. Les organismes ont jusqu'au 31 juillet pour agir. Cette annonce fait suite au processus de consultation publique. Les sociétés devront aussi confirmer à l'Office d'ici le 15 août que toute l'information a été mise en ligne. Au Nouveau-Brunswick, la tempête de verglas qui s'est abattue sur la province la semaine dernière continue de causer des maux de tête aux dirigeants. Le premier ministre Brian Gallant a déclaré en point de presse que certains secteurs pourraient devoir attendre encore quelques jours avant d'être reconnectés aux services électriques. Les foyers qui sont toujours privés d'électricité se calculent en milliers et sont privés de courant depuis déjà plusieurs jours. Il a dit aussi que son gouvernement retardera la lecture de son budget 2017-2018 en raison du nettoyage suite à la tempête. Le budget qui devait être déposé aujourd'hui le sera le 7 février. Nouvelle étude en provenance du Centre canadien de lutte contre les toxicomanies. Le document révèle que les taux canadiens de consommation de marijuana chez les jeunes sont toujours parmi les plus élevés au monde et les questions des jeunes de 14 à 18 ans. Parmi les conclusions, notons que certains répondants croyaient que la marijuana offrait des avantages médicaux, physiques et de santé mentale. De plus, la plupart des jeunes avancent que les conséquences nuisibles à long terme se manifestent chez ceux qui consomment souvent de la marijuana et non chez les consommateurs récréatifs. Dossier de la fusillade à l'aéroport Fort Lauderdale, eh bien Esteban Santiago Ruiz a comparu devant un tribunal. Il a été accusé formellement de 22 chefs d'inculpation. Il a plaidé non coupable dans cette affaire survenue dans l'un des aéroports les plus utilisés par les Canadiens en Floride. L'ancien militaire américain risque la prison à perpétuité et même la peine de mort pour avoir abattu 5 personnes au début du mois. Eh bien, les membres du gouvernement Trudeau ont été prudents lorsqu'appelés à se prononcer sur le dossier du décret américain à leur retour en chambre lundi. Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, a dit que la décision du président Trump posait un problème moral, mais a refusé de s'étendre davantage sur le sujet. Pendant ce temps, Omar El Gabra, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères, n'a pas voulu élaborer devant les journalistes concernant ses états d'âme sur ce décret. À peine sorti de la Maison-Blanche, voilà que Barack Obama se prononce sur la démocratie. Il a dit via son porte-parole que les Américains doivent manifester en défense de la démocratie. Kevin Lewis a indiqué dans un communiqué que l'ancien président se félicitait du niveau de mobilisation dans le pays. Kevin Lewis a déclaré également que Barack Obama condamne toute discrimination basée sur la croyance et la religion. Il est à noter que le nom de Donald Trump n'apparaît nulle part dans le document. La Défense nationale et les Forces armées canadiennes ont annoncé qu'un appareil s'est écrasé lundi au sud-ouest de Moose Jaw en Saskatchewan. Un instructeur de vol de l'aviation royale canadienne et un stagiaire de l'aviation étaient à bord. Ils ont été en mesure de s'éjecter avant l'écrasement de l'avion école CT-156 Harvard. La défense a indiqué ignorer pour le moment l'état de santé des deux hommes. Leurs noms n'ont pas été divulgués. La défense a ajouté que les circonstances de l'accident demeurent inconnues. C'est aujourd'hui la date limite pour l'envoi des candidatures pour les bourses d'études Dick Martin 2017 au Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail. Elle vise à susciter l'intérêt sur la santé et la sécurité au travail, mais aussi sur la poursuite d'études supérieures dans ce domaine. Les bourses sont remises aux étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire. Les noms des gagnants seront annoncés dans le cadre de la Semaine nord-américaine de la sécurité et de la santé au travail en mai prochain. Au sport au hockey, dans la Ligue nationale, est bien reprise ce soir des activités du calendrier régulier. Buffalo sera à Montréal, Dallas recevra Toronto, le Minnesota sera à Edmonton, la Floride à Ottawa et Winnipeg à Saint-Louis. Football canadien Gary Lawless du réseau TSN a déclaré sur son compte Twitter que la stratégie des Argonauts de Toronto est d'embaucher un directeur général puis un entraîneur-chef. Toronto a congédié son directeur général Jim Barker le 24 janvier. L'entraîneur-chef Scott Milanovic a démissionné, lui, deux jours plus tard pour joindre les rangs des Jaguars de Jacksonville de la NFL. Et dans la NBA ce soir, eh bien, Toronto recevra la Nouvelle-Orléans.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Il est 16h05, Alexis Gagnon au micro en votre compagnie jusqu'à 17h. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9. On va donner quelques petits éléments de météo avant de se rendre au bulletin des radios des Nations Unies. Pardon. On a 5 degrés actuellement au centre-ville. Ça va demeurer frais au cours des prochaines heures. Le mercure descendra à moins 2. Demain, on se réveille avec le soleil. Maximum de 4 degrés en cours de journée, et ça demeure assez frais. Même scénario pour jeudi 2 février, 5 degrés avec le soleil, moins 1 en soirée, et les choses pourraient se compliquer le vendredi 3 février selon les prévisions d'Environnement Canada sur le portail météo.gc.ca. Donc vendredi 3 février, on nous prédit potentiellement un mélange de pluie et de neige, donc une journée ponctuée de passages nuageux avec des averses pluie-neige, un maximum de 5 degrés. Donc on verra comment les prévisions évoluent d'ici vendredi. Donc pour le moment, c'est 5 degrés au centre-ville de Victoria, moins 2 au cours de la soirée et demain 4 degrés, toujours avec le soleil. Tout de suite, le bulletin des radios des Nations Unies. On se retrouve de l'autre côté avec les nouvelles provinciales. À tantôt.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour ce journal d'ONU Info. Avec en titre Antonio Guterres qui réaffirme les règles et principes relatifs aux réfugiés. L'ONU qui se félicite de la bonne tenue des élections de dimanche en Haïti. La clôture du Forum des Jeunes, nous entendrons l'Organisation Internationale de la Francophonie. Ah, puis nous reviendrons sur l'appel de 3,3 milliards de dollars de l'UNICEF en faveur de 48 millions d'enfants victimes de crises et de conflits. Le secrétaire général des Nations Unies est de retour d'Addis Abeba où il a participé au sommet de l'Union africaine. Pendant ce déplacement, Antonio Guterres a fait part à plusieurs reprises de son désaccord avec le récent décret présidentiel américain sur les réfugiés. Hier soir, il a diffusé une déclaration officielle à ce sujet, rappelant qu'il venait de quitter l'Éthiopie, un pays qui maintient ses frontières ouvertes depuis des décennies et qui accueille le nombre le plus important de réfugiés en Afrique. Le point avec Isabelle Dupuis.
Dans sa déclaration, Antonio Guterres a affirmé que les pays ont le droit, voire même l'obligation, de gérer de manière responsable leurs frontières pour éviter toute infiltration de membres d'organisations terroristes. Il a toutefois estimé que cela ne doit pas se faire sur la base d'une discrimination contre une religion, une ethnicité ou une nationalité, ce qui porterait atteinte aux principes et valeurs les plus fondamentaux sur lesquels ont été bâties nos sociétés et provoquerait de surcroît une anxiété et une colère généralisées qui risquent de faciliter la propagande des organisations terroristes que l'on cherche à combattre. Pour Antonio Guterres, des mesures prises à l'aveugle, sans se fonder sur des renseignements solides, ont tendance à être inefficaces, car elles risquent d'être contournées par des mouvements terroristes internationaux et sophistiqués. Le secrétaire général a dit être particulièrement préoccupé par les décisions prises partout dans le monde qui sapent l'intégrité des régimes internationaux de protection des réfugiés.
Alors que le Conseil de sécurité entend ce mardi l'envoyé spécial de l'ONU, Staffan de Mistura, sur les avancées des pourparlers visant à un règlement pacifique du conflit en Syrie, l'UNICEF annonce avoir appuyé ces dernières semaines la réouverture de 23 écoles primaires dans la partie est de la ville d'Alep, permettant à près de 6500 enfants de retourner à l'école. Tamara Kummer, porte-parole de l'UNICEF pour la région, revient sur l'appui apporté par le fonds.
L'UNICEF a fourni des fournitures scolaires, des meubles et aussi a développé un programme d'apprentissage accéléré pour les enfants surtout déplacés qui ont dû manquer plusieurs mois, voire des années de leur éducation. L'UNICEF a également fourni 10 salles de classe préfabriquées pour aider les enfants à retourner à l'école le plus rapidement possible. L'UNICEF a également mis en place un programme de sensibilisation aux risques de munitions non explosées. Ce programme a pour l'instant atteint 50 000 enfants et également l'UNICEF met en place des programmes de soutien psychosocial pour aider les enfants à surmonter les traumatismes qu'ils ont vécu au cours des derniers mois, voire des dernières années.
L'ONU et ses partenaires saluent la bonne tenue des élections organisées dimanche en Haïti. Elles visaient à pourvoir les sièges législatifs restants et à élire les délégués de ville et les représentants locaux des sections communales. Par une déclaration conjointe, la représentante spéciale des Nations Unies, Sandra Honoré, et les ambassadeurs et représentants du Core Group ont rendu hommage au leadership des autorités haïtiennes dans la mise en place d'un environnement propice à la tenue de ces élections. Dimanche déjà, Sandra Honoré avait mis l'accent sur la contribution des Nations Unies au processus électoral.
La MINUSTA a appuyé le Conseil électoral provisoire en ce qui concerne certains éléments de la logistique. L'UNOP également a assuré la redistribution du matériel sensible sous la supervision du Conseil électoral provisoire au centre de vote. Le PNUD a travaillé longuement avec le Conseil électoral provisoire en train de fournir de l'assistance technique pour ces élections. Donc, notre appui a été un appui institutionnel au gouvernement, aussi en ce qui concerne la sécurisation des élections, parce que la PNH et la MINUSTA, à travers ses composantes uniformées, les militaires et la police des Nations Unies, ont conclu un plan intégré de sécurité électorale pour assurer la sécurisation des élections sur le territoire national.
Enfin, suite et fin du forum sur la jeunesse réunie à New York, alors que plus de la moitié de la population mondiale a moins de 30 ans, la participation des jeunes à la construction d'un monde prospère paraît incontournable. D'ailleurs, les jeunes qui participent au forum se sont montrés résolus à ne pas être des spectateurs passifs. Mais si les idées abondent, les jeunes se heurtent souvent à de sérieux obstacles. Un problème auquel l'Organisation internationale de la francophonie a décidé de s'attaquer. On écoute Maumba Mabiala, directeur de l'éducation et de la jeunesse à l'OIF.
Les jeunes ont des solutions, ont des idées, ont de la créativité. Ils peuvent apporter des solutions concrètes. Mais l'obstacle le plus important, c'est le financement. Et c'est la raison pour laquelle nous venons de lancer la plateforme de financement participatif. C'est important d'exploiter la technologie actuelle qui permet, à travers l'Internet, de rejoindre toutes les bonnes volontés qui veulent aider à soutenir les jeunes. Donc cette plateforme permet aux jeunes de lancer leur projet dans l'espace public et de recueillir les financements possibles avec un accompagnement technique que l'OIF apporte à travers ses structures.
Retour sur l'actualité. De la Syrie au Yémen ou à l'Irak, du Soudan du Sud au Nigeria, les enfants sont directement affectés par les crises et conflits qui font rage dans 48 pays. Selon l'UNICEF, plus de 48 millions d'enfants en sont victimes. Pour leur venir en aide, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance a lancé ce mardi à Genève un appel de 3,3 milliards de dollars afin de financer ses opérations en 2017. Les explications de Manuel Fontaine, il est directeur des programmes d'urgence de l'UNICEF, des propos recueilli par Alpha Diallo.
C'est effectivement, en montant en tout cas, le plan le plus important, aussi dans le nombre d'enfants. Quand on avait lancé le même appel l'année dernière, on visait à peu près 43 millions d'enfants. Cette année, c'est 48 millions d'enfants. Mais aussi, dans le cours de l'année, d'autres urgences parfois interviennent. C'est surtout le signe qu'on a de plus en plus d'urgences qui durent, comme c'est le cas de la crise syrienne, par exemple, de l'Irak, mais aussi des crises en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest actuellement, puis aussi la Somalie. Donc il y a toutes ces crises qui durent et dans lesquelles les enfants sont pris au piège.
Et 3,3 milliards de dollars pour aider 48 millions d'enfants. Plus du tiers de cet appel concerne justement la crise syrienne. Est-ce que les priorités ont changé dans ce pays ?
Non, les priorités restent les mêmes. Un des gros problèmes aujourd'hui, une des grandes priorités, c'est l'accès, c'est pouvoir accéder aux enfants. Pour ce qui est de la Syrie, c'est beaucoup, notamment autour de l'éducation, notamment pour les enfants déplacés, les enfants réfugiés dans les pays limitrophes, de s'assurer qu'ils aient accès à l'éducation et qu'ils ne perdent pas leur éducation. Et donc, c'est un des éléments essentiels. Et un des grands éléments de cet appel aussi, c'est la question de la malnutrition, qui malheureusement est très sérieuse. Et on estime que plus de 7 millions d'enfants, 7,5 millions d'enfants, vont être à risque de malnutrition aiguë sévère dans les pays dans lesquels on travaille avec nos actions humanitaires.
Justement, 7,5 millions d'enfants seront exposés cette année au risque de malnutrition aiguë sévère dans la plupart des pays visés par l'appel de fonds. Mais pourquoi l'UNICEF parle de menaces silencieuses ?
D'une certaine mesure, on parle moins de la malnutrition. On a un peu l'impression qu'un conflit, c'est surtout des problèmes de violence, mais ils sont là. Mais c'est aussi la malnutrition est provoquée par le manque d'accès à de l'eau, par exemple, de qualité, le manque d'accès à l'assainissement qui fait que les enfants tombent malades, ils ont une diarrhée ou ils ont un problème de maladie respiratoire, ils ne s'alimentent plus et du coup, on tombe dans cette espèce de cycle de malnutrition. Parfois, c'est un problème d'accès aussi à la nutrition. Mais on en parle moins et pourtant, ça fait énormément de victimes.
Une simple illustration pour montrer l'urgence de la malnutrition dans un pays quelconque.
Bah écoutez, si vous regardez la situation dans les trois états du nord-est du Nigeria, on s'attend à ce que 450 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère, ce qui veut dire 450 000 enfants qui vont avoir besoin d'accéder à un traitement spécifique. Ce traitement peut leur sauver la vie, ce traitement peut en tout cas leur permettre de se développer normalement, mais ça implique de pouvoir leur donner ce traitement. Donc c'est des aliments thérapeutiques prêts à l'utilisation, et puis éventuellement dans certains cas aussi de prendre en charge d'autres pathologies comme le paludisme ou les maladies respiratoires qu'ils peuvent avoir de manière combinée.
Vous avez parlé de la crise dans le bassin du lac Tchad, mais de la Syrie à l'Irak, du Soudan du Sud à des crises comme le Yémen où les enfants sont directement affectés, mais comment hiérarchiser ces priorités ou bien hiérarchie est un mot tabou pour les humanitaires.
Je pense que hiérarchie est un mot tabou dans le sens, oui, on peut éventuellement établir des priorités sur des moments d'urgence, mais un enfant, qu'il soit centrafricain, yéménite, irakien, syrien ou afghan, a les mêmes besoins et a les mêmes droits. Et donc, on doit s'assurer qu'on leur apporte la même aide humanitaire quand ils ont ces besoins. Et donc, c'est ce que l'on essaie de faire. Malheureusement, dans la réponse de la communauté internationale, certaines crises attirent plus d'attention que d'autres. Et c'est vrai que l'année dernière, en particulier, des crises comme l'Afghanistan n'ont pas attiré énormément d'attention et pas les ressources nécessaires pour faire notre travail dans les meilleures conditions.
Et comment les organisations humanitaires comme l'UNICEF essayent de remplir ces objectifs dans des régions du monde moins médiatisées comme ces crises en Afghanistan ou bien certaines crises oubliées en Afrique?
On en fait toujours appel aux bailleurs de fonds pour qu'ils nous donnent d'abord des fonds sur ces crises-là ou des fonds qui ne soient pas attribués à une crise en particulier, qui soient flexibles avec lesquels on puisse travailler. On a notre ressource propre aussi qu'on essaie d'utiliser, mais il faut être clair qu'il y a des cas, si on n'a pas les ressources ou si on n'a pas l'accès, on ne pourra rien faire pour ses enfants. Et donc ça, c'est inacceptable. Et il faut vraiment, on en appelle à tous les bailleurs de fonds de ne pas oublier ces crises et aussi à tous ceux qui peuvent en parler, les journalistes, tous ceux qui ont une voix, de ne pas oublier ces crises et les enfants dans ces crises.
Voilà, fin de ce journal d'ONU Info à retrouver sur Internet et les médias sociaux. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
L'info se poursuit dans l'émission Le Débrief. Vous êtes à l'antenne de CILS FM 107,9. Merci de nous accompagner en direct ou encore en rediffusion dans la matinée du 1er février. On change d'échelle, on va passer aux nouvelles provinciales. On reviendra aux nouvelles internationales un petit peu plus tard, nouvelles internationales et nationales. Pour l'instant, ce sont les nouvelles de Colombie-Britannique. Et on commence tout de suite avec le dossier de l'énergie, une nouvelle qui paraît dans le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique. Gaz naturel liquéfié, deux premières nations s'entendent avec Ottawa et la Colombie-Britannique. Deux premières nations de la Colombie-Britannique se sont entendues avec le gouvernement provincial et Ottawa pour participer à un comité de surveillance environnementale autour du projet de gaz naturel liquéfié Pacific Northwest LNG. Il s'agit d'une première sur le plan de la surveillance de l'environnement au Canada, soutient le gouvernement fédéral. La bande des Premières Nations Lacs-Kwalams ainsi que la Première Nation Metla-Katla auront une place à la table du comité en vertu de cet accord pour faire en sorte que le projet méga gazier qui sera construit dans le nord de la province de Colombie-Britannique respecte l'environnement. Le projet de Pacific Northwest LNG a reçu l'aval d'Ottawa en septembre 2016 à partir du moment qu'il remplissait 190 conditions portées par le groupe Petronas, qui est une compagnie de Malaisie principalement, avec des partenaires japonais et chinois notamment. Petronas représente le plus important projet de développement de ressources naturelles privées dans l'histoire du Canada. Donc, ce projet doit permettre d'acheminer du gaz naturel refroidi sous forme liquide qui sera ensuite transporté par bateau vers les marchés asiatiques à partir de la ville de Prince Rupert sur le littoral britanno-colombien. Donc, voilà, une entente avec deux Premières Nations qui pourront participer à un comité de surveillance environnementale. Gaz naturel liquéfié, deux Premières Nations s'entendent avec Ottawa et la Colombie-Britannique, c'est dans le portail de Radio-Canada. Autrement, quand on se tourne vers le portail du journal local indépendant de Taï, qui est basé ici même à Victoria, on remarque cette nouvelle concernant, toujours dans le domaine énergétique, la compagnie Kinder Morgan. Et c'est une nouvelle qui nous renseigne sur une démarche de deux groupes environnementalistes et des droits de la personne, Democracy Watch ainsi que Pipe Up Network. Ce sont deux OBNL militants qui demandent une révision judiciaire de l'approbation qu'a donné le gouvernement de Christy Clark au pipeline Trans Mountain de la compagnie Kinder Morgan. Donc c'est une demande qui est soumise, une demande de révision judiciaire qui est soumise à la Cour suprême de Colombie-Britannique. Et dans la demande, les deux groupes font état du conflit d'intérêts dans lequel se trouve le gouvernement de Christy Clark en ayant à donner son aval au projet de Kinder Morgan, puisque Kinder Morgan était un donateur du parti de Madame Clark. Donc, selon eux, l'impartialité, l'objectivité du gouvernement est en cause. Il y aurait conflit d'intérêts étant donné que Kinder Morgan a donné plus d'un demi-million de dollars au fil des dernières années au parti de Christy Clark, le parti libéral de Colombie-Britannique. Donc c'est dans le média de Taï, un média indépendant qui fait toujours du bon travail. Vous trouverez ça sous la manchette « Groups want review of Clark's Kinder Morgan approval citing BC Liberal Donations. » Et de retour sur le portail francophone de Radio-Canada Colombie-Britannique, on nous apprend que la taxe de 15% attribuée sur une taxe qui a été imposée plutôt sur le marché vancouverois de l'immobilier l'été dernier, il y a une nouvelle exemption à cette taxe, nous apprend Radio-Canada, une exemption qui concerne les gens qui ont un permis de travail au Canada. Donc je vous lis quelques lignes. À près de 3 mois des élections provinciales, le gouvernement de Christy Clark a assoupli sa taxe de 15% appliquée aux acheteurs étrangers du marché immobilier vancouverois. La province a décidé d'accorder une exemption à ceux qui ont un permis de travail en Colombie-Britannique. 7 mois après l'imposition d'une taxe de 15% pour les acheteurs étrangers, Christy Clark a décidé d'accorder une exemption à ceux qui travaillent, paient des impôts et sont établis en Colombie-Britannique, a-t-elle indiqué. Cette exemption est par ailleurs souhaitée par le parti néo-démocrate de la province de Colombie-Britannique et celui-ci a accueilli favorablement la décision d'exempter ces personnes, donc les personnes concernées. Vous trouverez cette nouvelle sur le portail de Radio-Canada. Toujours sur le portail de Radio-Canada, une nouvelle qui concerne Surrey en région vancouveroise. Une nouvelle unité policière à Surrey intervient dans 55 cas de surdose en seulement 2 semaines. Une équipe d'intervention communautaire travaille à Surrey, en Colombie-Britannique, pour endiguer les problèmes de toxicomanie et d'itinérance depuis maintenant 2 mois. En 2 semaines, Récemment, des agents de cette équipe sont intervenus dans 55 cas de surdose de drogue illicite et ont compté plus de 50 personnes vivant dans des tentes. Un rapport rendu public récemment note l'amélioration des réponses dans la crise des surdoses dans la région de Surrey, notamment grâce à l'embauche de personnes affectées dans les refuges temporaires. Un centre d'injection supervisé est attendu dès que Santé Canada aura donné son aval au projet, indique le même rapport. Donc ça, c'est sur le portail de Radio-Canada également. Du côté anglophone de Radio-Canada, sur le portail de la CBC, une nouvelle concernant un revendeur de fentanyl. Vous savez, le fentanyl, cette substance mortelle en cause dans la mort de centaines de Britanno-Colombiens en 2016. Donc un dealer de fentanyl a été condamné à 14 années de pénitencier. C'est une nouvelle qui a paru hier dans le portail de la CBC. Il s'agirait de la première condamnation reliée directement au fentanyl en Colombie-Britannique. Et la juge, dans la décision qu'elle a rendue, a indiqué que l'ampleur de la crise actuelle justifiait une peine exemplaire de 14 ans pour ce contrebandier, ou plutôt ce revendeur, ce trafiquant de fentanyl, du nom de Walter James McCormick. Donc il s'agissait de la juge Bonnie Craig dans cette affaire. Vous trouverez cet article sur le portail de la CBC. BC Fentanyl dealer sentenced to 14 years in prison. Sinon, dans le site local de nouvelles Victoria News, que l'on trouve à l'adresse vicnews.com, on nous apprend qu'un malheureux accident est survenu entre un cycliste et un automobiliste dans la soirée d'hier. Donc, c'est une collision qui est survenue à l'angle des rues Hillside et Cook. Ici même à Victoria, donc un cycliste qui circulait sur un vélo électrique. Un homme âgé de 72 ans a été percuté par une voiture et transporté immédiatement à l'hôpital. On craignait pour sa vie. Il a eu la vie sauve. Cependant, le conducteur du véhicule collabore avec les policiers, indique cet article de Victoria News. Il est trop tôt, précise l'article, pour déterminer si des accusations seront portées contre le conducteur. Et sinon, dans la presse canadienne, un article un peu insolite que je vous signale sur la fin de ce bloc provincial. Commerce de peau d'ours polaire. Oui, vous avez bien entendu, commerce de peau d'ours polaire. Un taxidermiste condamné à une amende de 5 000 $. C'est rapporté par la presse canadienne. Une entreprise québécoise de taxidermie et un particulier ont été condamnés à 5 000 $ d'amende pour avoir enfreint la loi régissant l'exportation de peau d'ours polaire entre les provinces canadiennes. Nature 3M ou Nature 3M de la ville de Normandin au Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec a été condamné il y a quelques jours à 5 000 $ d'amende pour avoir exporté deux peaux d'ours polaires en Colombie-Britannique. Donc, vous le voyez, il y a un lien avec le bloc provincial britanno-colombien. Cette exportation de peaux d'ours polaires était à destination de Colombie-Britannique. Donc, un article insolite que je voulais vous signaler, c'est dans les colonnes de la presse canadienne. Et pour terminer, si vous voulez des images de la manifestation qui s'est tenue au centre-ville de Victoria aujourd'hui en solidarité de la communauté musulmane de la ville de Québec suite à la fusillade meurtrière qui est survenue dimanche, il y a des images, oui, sur le portail de vicnews.com, un compte-rendu de la manifestation. Vous pourrez, si vous n'étiez pas là, si vous n'avez pas eu l'occasion, la possibilité de vous déplacer, vous pourrez prendre connaissance d'un peu de quelques photos qui sont publiées donc sur Vic News à propos de cette marche, cette vigile, ce rassemblement plutôt. Je crois pas qu'il y ait eu de marche, c'était un rassemblement et il y avait de nombreuses personnes donc en solidarité avec la communauté musulmane de Québec. On s'arrête quelques instants en musique. On va écouter l'auteur, compositrice, interprète Andréane A. Mallette. La pièce s'intitule Fou, et on se retrouve de l'autre côté avec les nouvelles du jour. À tout de suite.
avec moi, on s'en va où tu veux. Mais laisse-moi t'arracher de ceux qui s'inventent des dieux. Si je t'emmenais dans le bois, l'endroit où t'es le mieux. Puis après de bonnes bouffées d'air, tu me diras ce que je peux faire. Parce que là, tu t'enfonces et j'ai pas de réponse. Tu fabules, tu délires et je sais pas quoi dire. Tu trembles, tu maigris, t'as le teint pâle et gris. Tu changes et je m'ennuie de mon meilleur ami. Moi, je fais quoi, je fais quoi? J'attends de devenir folle pour voir ce que tu vois. Toi, qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu fous? On dirait que tu décolles et que tu deviens fou. Découvre la face cachée de ton visage, comme les traits effacés sous une belle image. Je lis dans tes yeux comme dans un livre ouvert, et même si tu le refermes, je peux lire au travers. Et là je le vois, tu t'enfonces à chercher des réponses. Tu fabules, tu délires, plus rien ne te fait rire. Tu mens, tu oublies, t'endors plus la nuit. Tu bois et quoi encore, en autant que tu perds le nord. Moi je fais quoi, je fais quoi? J'attends de devenir folle pour voir ce que tu vois. Toi qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu fous? On dirait que tu décolles et que tu deviens fou.
L'artiste Andrian A. Mallette dans le débrief à 16h29. Merci de nous écouter en direct ou encore en rediffusion dans la matinée du 1er février. On va passer aux nouvelles du jour à présent. On commence par un petit retour sur la fusillade qui est survenue à Québec dimanche. Fusillade qui a causé la vie, qui a causé des pertes de vie. Donc 6 morts ont été déplorées. En réaction, dès le lendemain, donc hier, 30 janvier, une marée humaine à Montréal en solidarité pour les victimes de Québec. C'est dans le journal La Presse, sous la plume du journaliste Hugo Pilon-Larose. Une véritable marée humaine a investi la place de la gare Jean-Talon à Montréal lundi soir pour rendre hommage aux Québécois de confession musulmane morts dans un attentat perpétré contre une mosquée de la ville de Québec. Rassemblés dans un froid polaire, plusieurs parents étaient présents avec leurs enfants, habillés chaudement, donc dont certains tenaient des chandelles et des pancartes dénonçant la violence et la haine. Donc une mobilisation citoyenne un peu partout au Québec, dans plusieurs villes et aussi bien sûr à Montréal où la communauté musulmane est nombreuse. Donc c'est dans les pages du journal La Presse, vous trouverez ça sur leur site. Une marée humaine à Montréal en solidarité pour les victimes de Québec. Sinon, sur le portail France Culture à propos du président Trump qui gouverne par décret depuis son arrivée au pouvoir le 20 janvier. Et c'est un bon résumé des décrets qui ont été rendus par le président depuis le 20 janvier. Donald Trump, un jour, un décret, une polémique. Donc c'est systématique depuis près d'une douzaine de jours. Lancé dans un exercice de communication visant à montrer qu'il agit, le nouveau président américain a pris une série de mesures jugées choquantes dans divers domaines, écrit l'auteur de cet article sur le portail France Culture. Les décisions prises par Donald Trump durant ses 8 premiers jours au pouvoir sont présentées sur le site de la Maison-Blanche comme la première semaine du président en action. fermeture des guillemets. Donc c'est le terme, c'est le vocable qu'il se donne, président en action. Quasiment tous les décrets, continue l'article, ont suscité une vague d'indignation, voire des manifestations dans plusieurs villes des États-Unis. Alors, cet article va vraiment en profondeur, parle de chaque décret présidentiel des derniers jours en détail. Je vais vous citer les décrets pour rappel. Donc, vendredi, on va en ordre inverse, on remonte le temps jusqu'au 20 janvier. Donc, ça commence par le vendredi 27 janvier, les ressortissants de 7 pays interdits d'entrer aux États-Unis. Et d'ailleurs, on en parle un petit peu plus tard dans l'émission. Restez à l'écoute, ce sera notre interview du jour. Donc, ce décret, c'est l'une des dernières décisions prises par l'administration Trump. Et c'est à date la plus spectaculaire, indique cet article de France Culture. Alors, c'est un décret qui, soi-disant, vise à protéger la nation contre l'entrée aux États-Unis de terroristes étrangers. Donc, ça a suscité une levée de boucliers partout dans le monde et provoqué des engorgements monstres dans les aéroports. Alors, on y reviendra plus tard dans l'émission. Alors, si on remonte jusqu'au 20 janvier, un autre décret survenu le 25 janvier, le mur de la discorde, Donald Trump a signé un décret pour planifier la construction d'un mur de séparation entre les États-Unis et le Mexique. Un décret présidentiel ne pouvant aboutir à engager des dépenses supplémentaires, la construction du mur devra être décidée par les parlementaires américains. Ensuite, en remontant le temps, le 24 janvier, fin des considérations environnemental. Donc, par décret, Donald Trump a fait connaître qu'il ne croit pas au réchauffement climatique et à ses effets désastreux. Il a donc signé un décret permettant de relancer deux projets d'oléoduc, Keystone XL et Dakota Access Pipeline, qui avaient été bloqués par son prédécesseur au nom justement de la lutte contre le réchauffement climatique. Lundi 23 janvier, lutte contre l'avortement et protectionnisme. Donald Trump a signé effectivement un décret destiné aux organisations non gouvernementales américaines qui soutenaient l'avortement un peu partout dans le monde. Cette décision a provoqué des manifestations de centaines de milliers de femmes. Alors, la marche des femmes avait lieu en partie pour protester contre ce décret qui s'attaquait au droit à l'avortement et au planning familial que permettait de faire des ONG américaines intervenant dans des pays du tiers-monde ou des pays en développement. Sinon, en remontant jusque au premier jour de cette administration nouvelle, vendredi 20 janvier, le premier décret, c'était celui qui concernait l'Obamacare, vous savez, le régime d'assurance maladie d'Obama, le leg du président Obama. Dans la foulée de son investiture, écrit l'auteur de cet article sur France Culture, le président américain a décidé de s'attaquer à une réforme emblématique d'Obama, l'Obamacare, une loi d'assurance santé bénéficiant aux foyers les plus modestes. Donc voilà, la liste des décrets est complète. Donald Trump, un président qui gouverne par décret, donc vous aurez le détail, l'explication de tous ces décrets qui pleuvent depuis l'entrée en fonction du président. Donc c'est intitulé « Donald Trump, un jour, un décret ». Une polémique, c'est en date d'aujourd'hui sur le portail France Culture. Et autre texte que je tenais à vous signaler, ça paraît dans le site lepoint.fr, donc Le Point, c'est un magazine d'information français qui rapporte une étude parrainée par la NASA qui indique que notre civilisation touche à sa fin, tout simplement. Alors, c'est pas très réjouissant, mais je vous en fais quand même part. Et si notre civilisation s'effondrait d'ici quelques décennies, c'est en tout cas ce qu'assure une étude parrainée par le Goddard Space Flight Center de la NASA. Vous savez, la NASA, l'agence spatiale américaine. Donc, c'est une étude récente. Les chercheurs ne manquent pas d'arguments pour justifier la fin de la civilisation industrielle. Selon l'agence spatiale américaine, la surexploitation des ressources et la répartition des richesses de plus en plus inégales seraient à l'origine de cet effondrement. Les scientifiques se sont appuyés sur l'histoire d'anciennes civilisations et notamment les empires romains, mésopotamiens, pardon, et d'autres pour bâtir leur raisonnement. Ils se sont aussi fondés sur un modèle mathématique. Donc, c'est assez fouillé cette étude qui prédit la fin probable de notre civilisation. Donc, c'est sur le site lepoint.fr. Notre civilisation touche à sa fin, assure la NASA. Donc, espérons que l'agence spatiale américaine a tort. Je voulais tout de même vous en faire part. Et fermons ce bloc nouvelle du jour pour mentionner que l'homme politique Stéphane Dion, qui occupait jusqu'à récemment les fonctions de ministre des Affaires étrangères dans le cabinet de Justin Trudeau, Stéphane Dion, donc, vient d'être nommé ambassadeur en Allemagne. C'est rapporté par plusieurs médias canadiens. Vous trouverez ça dans la presse canadienne, bien sûr. Et il a livré un plaidoyer vibrant lors de sa dernière présence à la Chambre des communes, Stéphane Dion. Donc, c'était aujourd'hui mardi. Il se dirige donc vers l'Allemagne d'Angela Merkel. Il entrera en fonction très bientôt. Alors, on croyait que c'était la fin de la carrière politique, mais carrément même la retraite de Stéphane Dion. Non, il ne partira pas à la retraite. Stéphane Dion est maintenant ambassadeur du Canada en Allemagne. Voilà, on s'arrête là-dessus. On va bientôt se rendre à l'interview du jour et je vous citerai au préalable quelques petits éditos remarqués un peu partout dans la presse francophone. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Vous écoutez CILS FM 107,9. Merci d'être à l'écoute. Vous êtes dans l'émission Le Débrief en fin de journée. On va se rendre bientôt à l'interview du jour. Mais auparavant, je vous cite quelques éditos parus dans la presse un peu partout sur la toile. Tout d'abord, ce texte signé par Gabriel Brassard-Lecour et Félix Deslauriers dans le portail Ricochet. C'est du côté francophone de Ricochet, ricochet.media. En finir avec l'illusion d'un Québec parfait. Vous devinez de quoi il s'agit. C'est un texte qui revient sur l'attentat qui a causé 6 morts, qui a fait 6 morts et 19 blessés dans une mosquée de Québec dimanche soir. Donc, le texte dit tout. C'est un appel à la lucidité, en finir avec l'illusion d'un Québec parfait. Je vous recommande cette lecture. Autrement, il y a un beau texte paru sur Facebook de la part de l'Association des musulmans et des arabes pour la laïcité. Donc, ce sont des gens qui sont en faveur de la laïcité et leur texte sur Facebook est vraiment inclusif solidaire. Il y a de bons passages. Il y a une vidéo aussi de l'un des membres de cette association des musulmans et des arabes pour la laïcité. Donc c'est en réponse à la tragédie de Québec, bien sûr. Donc je vous recommande ce texte. Et dans Le Soleil, un journal de la ville de Québec, un journal local, il y a un témoignage de la part d'un ex-skinhead, Maxime Fizet, qui s'est confié au journaliste Yann Bussière. Il dit que l'auteur de l'attentat de Québec, ça aurait pu être lui. C'est un extrémiste repenti qui prend la parole dans cet article. Ses propos sont recueillis par le journaliste Yann Bussière, je le disais. Et donc, cet ancien extrémiste dit qu'il avait des armes, qu'il avait un détonateur, un fusil. Il ne lui manquait que des explosifs. C'était en 2009, confie-t-il au journaliste. Et il a fait du chemin depuis. Il dit dans cet article qu'il n'est pas étonné qu'un attentat se soit produit à Québec. En fait, ce qui me surprend, dit-il, c'est que ce ne soit pas arrivé avant. Donc, je vous recommande cet article. L'auteur de l'attentat, ça aurait pu être moi. C'est dans le journal Le Soleil en date d'aujourd'hui. On se rend tout de suite à l'interview du jour. Et le thème demeure le même, la politique anti-musulmane de Donald Trump. Quelques notes sur, bien sûr, la tragédie de Québec. C'est en compagnie de Jean-Christophe Leblond, qui est un chroniqueur régulier ici au Débrief. On retrouve Jean-Christophe, dans quelques instants. Restez à l'écoute.
Merci d'écouter l'émission Le Débrief en fin de journée, votre rendez-vous info à l'antenne de CILS FM 107,9. Je suis en ligne avec Jean-Christophe Leblond. Bonjour Jean-Christophe.
Oui, bonjour Alexis.
Bonjour. Alors, nous parlons du Muslim Ban, le décret présidentiel de Donald Trump interdisant le séjour aux États-Unis à des ressortissants d'une série de pays à majorité musulmane. On l'appelle tout simplement le Muslim Ban et c'est un décret unilatéral anticonstitutionnel, on y reviendra, qui est tombé en date du 27 janvier. Il a eu tout de suite un impact important sur la scène internationale. Il y a des conséquences très concrètes et importantes à ce décret. Et quelques jours plus tard, bien sûr, on a malheureusement déploré cette tragédie à Québec, la fusillade qui a éclaté au centre islamique de Québec, faisant 6 morts. Donc, peut-être juste, Jean-Christophe, établir un lien, peut-être, même s'il n'est pas direct, entre le populisme islamophobe de Trump et les événements qu'on a connus à Québec. Qu'en penses-tu?
Je pense qu'il y a un lien, même s'il n'est pas immédiat. C'est que on a tendance à toujours croire que ce genre de choses-là ne peut se produire qu'ailleurs. Quand il y a un Trump qui est élu aux États-Unis, tout de suite on pointe du doigt les Américains, les États-Unis, et puis on se dit que c'est eux qui ont un problème, et on se rassure, et puis tout d'un coup, cet attentat terroriste d'un toute évidence, un sympathisant de l'extrême droite qui décide d'ouvrir le feu sur des parfaits innocents seulement parce qu'ils sont musulmans. Oui. Et donc, c'est un rappel amer que, en fait, ce genre de haine, ce genre de démagogie a un impact partout. C'est un phénomène oui. mondial. Et Trump en est une manifestation, mais il y en a des manifestations ici aussi. Il y en a des manifestations un peu partout dans le monde.
Oui.
Et c'est un discours qui occupe de plus en plus de place dans les médias, dans la bouche des politiciens depuis probablement plus d'une décennie. Et maintenant, ce qu'on voit, ce sont des effets concrets de ce discours-là et des effets tragiques.
Alors, et bien sûr, le discours est au sommet de l'État, ce qui le rend encore plus puissant. Donc, on sait aujourd'hui que le meurtrier était un grand admirateur du président Trump. Il admirait également la chef du Front National en France, Marine Le Pen. Il tenait des propos islamophobes sur les réseaux sociaux et antiféministes.
Oui, exactement. C'est ce que j'allais ajouter. C'est le profil typique de l'extrême droite, islamophobe, misogyne, antiféministe, etc.
Voilà. Donc, on voit que ce meurtrier, ce tueur, avait été alimenté par différents discours, et effectivement on peut établir un certain lien indirect avec la montée populiste du mouvement Trump et du président Trump aux États-Unis. Maintenant, donc, à propos de ce Muslim ban qui a été introduit le 27 janvier, quelques faits sur ce décret exécutif qui porte l'intitulé qui induit en erreur protéger la nation de l'entrée de terroristes étrangers aux États-Unis. Donc ça, c'est l'intitulé officiel. C'est une promesse de campagne. Trump, sur les tribunes de la campagne présidentielle 2016, avait promis d'interdire l'accès aux États-Unis aux citoyens de pays musulmans. Il a été mis en application, ce décret, et a causé des engorgements dans les aéroports du pays. Il y a des conséquences bien concrètes, on va y venir. Et ça concerne 7 pays principalement. Donc je vais vous lire un passage d'un topo qui résume bien sur le portail Wikipédia ce décret présidentiel. Et après, on va amorcer justement l'analyse. Donc le décret suspend le programme d'admission des réfugiés pendant 120 jours. Et ce décret suspend également l'entrée sans considération pour les visas déjà accordés de citoyens de pays à majorité musulmane pendant 90 jours. Donc ces pays, ce sont l'Irak, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Et la liste de ces pays comprend également la Syrie, donc les citoyens syriens, même ceux qui sont munis de visas. On a appris par la suite que les détenteurs de cartes vertes étaient exemptés. Mais il y a eu beaucoup de confusion autour des exemptions de ceux qui pouvaient être dispensés de ce décret. Et rappelons en terminant ce petit résumé que la procureure générale par intérim, Sally Yates, donc l'une des responsables nommées par Obama, qui est encore en fonction puisque le nouveau procureur général Sessions, Jeff Sessions, n'est pas encore entré en fonction. La procureure a fait un acte de bravoure, si vous voulez, cette semaine, en refusant de mettre en œuvre ce décret. Elle a été limogée immédiatement par le président Trump. Donc voilà, de nombreuses réactions internationales. Et je dois dire, Jean-Christophe, que tu es en ligne aujourd'hui parce que tu connais bien le Moyen-Orient, tu as voyagé au Moyen-Orient, tu as des proches qui appartiennent à la communauté iranienne. Donc, on peut peut-être commencer en citant quelques exemples d'impact concrètement. Comment ça impacte les citoyens iraniens, par exemple, qui voyagent dans le monde?
Évidemment, il y a une très, très, très importante diaspora iranienne. Et puis souvent, au sein de la même famille, il y a des gens qui se sont retrouvés dans différents pays, dont les États-Unis, qui a en fait une très, très importante communauté iranienne. Je me souviens plus de ces chiffres exacts, mais c'est de 1 à 2 millions, me semble-t-il, d'Américano-Iraniens. Qui ont de la famille dans d'autres pays, en Europe, en Iran, au Canada. Et donc, tout d'un coup, il y a des familles qui se retrouvent scindées en Ensuite, pour ce qui est du travail, bien évidemment, surtout en Amérique du Nord, au Canada, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des pour des compagnies canadiennes qui, par affaires, doivent se rendre régulièrement aux États-Unis.
Oui.
Alors, tout d'un coup, ils n'ont plus cette possibilité-là. Et puis, je connais en particulier un cas d'ingénieur qui travaille pour Bombardier et qui doit régulièrement, parfois deux fois par mois, se rendre
aux USA.
Des inspections, oui. Dans des usines de Bombardier aux États-Unis. Et puis, tout d'un coup, du jour au lendemain, ben voilà, ça devient beaucoup plus difficile. Ceci dit, il faut revenir là un peu sur ce que tu as mentionné dans le topo, que
oui.
Les détenteurs de green card sont exemptés. Mais c'est ce qui est intéressant avec ce décret, c'est que toutes ces exemptions sont venues par après.
Oui.
Elles n'étaient pas incluses dans le texte initial. C'est simplement en se rendant compte que du caractère inapplicable du décret.
Oui.
Qu'ensuite il y a ces corrections qui ont été apportées. Donc d'abord il y a eu le fait que bon d'accord ceux qui sont en transit. Bon, il y a des juges, il y a des avocats qui sont allés en cours. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se sont retrouvées qui étaient en transit au moment où le décret était appliqué, et donc qui se sont retrouvées tout d'un coup arrivées à l'aéroport et à se faire à être arrêtées par les douaniers.
Oui.
Et donc il y a eu une exception pour ceux qui étaient en transit. Ensuite, il y a eu une exception pour ceux qui étaient munis de green card. Ensuite, on a assuré aux Canadiens qui avaient une double nationalité qui pourraient entrer aux États-Unis avec leur passeport canadien. Ensuite, les Britanniques ayant une double nationalité ont bénéficié d'une exemption. Et maintenant, l'Australie et la Nouvelle-Zélande demandent le même traitement. Donc, ce que ça démontre, c'est que ce décret-là a été rédigé d'une façon tout à fait... L'importance de ce décret-là, ça n'était pas qu'il puisse être fonctionnel. C'était strictement l'impact médiatique de la chose, en fait. Et je pense que c'est cohérent avec la façon dont Trump a fait campagne. Il tente de satisfaire sa base. Que dans les faits, ce qu'il fait ait des conséquences désastreuses, ça semble très peu le préoccuper.
Oui.
Que ce soit incohérent, que sur le terrain, ça ne fonctionne pas, ça semble très peu le préoccuper. Ce qui lui importe, c'est l'impact médiatique, c'est
le spectacle
qu'il crée. Comme ça, il montre à ses supporters que... qu'il agit de la façon qu'il avait dit qu'il agirait, que ce soit incohérent, que ça ne fonctionne pas, ça lui importe peu.
Et parlant d'exception, on a appris que les citoyens iraniens de confession juive étaient exemptés de ce décret. C'est, je crois, tombé aujourd'hui, ce matin. Et donc, à tous
donc,
les défenseurs...
Il y a de plus en plus d'exceptions.
Voilà.
Un peu arbitraire.
Et qui prouve, en fait, cette exception-là en particulier prouve que ce décret est anti-musulman, puisque les citoyens iraniens d'autres confessions que celles musulmanes sont admis aux États-Unis. Donc, les défenseurs de Trump, son cabinet, son porte-parole ont dit non, c'est pas un Muslim ban, c'est un décret qui protège les États-Unis contre des nations identifiées comme problématiques, entre guillemets. Alors non, c'est en fait un Muslim ban. Et d'autre part, le grand absent, si on veut parler de cohérence dans ce décret, c'est l'Arabie Saoudite qui ne figure pas sur la liste de ces pays visés par le décret.
En effet, c'est
l'Arabie Saoudite, c'est quand même le terreau le plus fertile en matière de terrorisme depuis 15 ans.
Oui, c'est de là que vient une partie du financement, une partie importante du financement.
Exact.
Mais aussi, paradoxalement, et on le sait, probablement le plus grand allié des États-Unis au Moyen-Orient.
Voilà. Donc, incohérence complète, inconstitutionnalité, oui, par ailleurs. Et voilà, ça fait à peine 10 jours que Trump est en place.
Oui. Donc, voilà. Encore une fois, pour moi, le constat qu'on peut faire, c'est que ce qui importe à Trump, ce n'est pas le caractère pratique, ce n'est pas les conséquences des décisions qu'il prend, c'est le spectacle médiatique qu'elles prennent, et c'est là l'outil par lequel il compte maintenir et affirmer son pouvoir.
Voilà.
Je crois qu'il y a deux axes par lesquels on peut comprendre ses gestes. Le premier, c'est cela, c'est le spectacle, et le deuxième, c'est ce qui bénéficie à l'élite financière qui est proche de lui. Donc, les postes, les gens qu'il a nommés aux différents postes clés,
voilà,
sa promesse de déréglementer au maximum concernant les questions environnementales, etc., etc.
Voilà, et c'est du présidentialisme autoritaire. On dirait qu'il a pas conscience qu'il y a un instrument appelé le Congrès, le Sénat. Il fonctionne par décret.
La Constitution américaine elle-même.
Voilà, voilà. Donc, évidemment, on n'est pas expert de la Constitution américaine, mais c'est nettement une dérive autoritaire là qui se dessine dans les premiers jours de l'administration Trump. Est-ce qu'on peut revenir sur les cas de figure de la communauté iranienne canadienne? Est-ce que tu avais d'autres cas à citer, outre celui de l'ingénieur de Bombardier?
Ben, c'est un cas précis, mais oui, il y a plein de gens, comme je dis, surtout quand on est au Canada, la frontière américaine est tout proche, et puis le